des livres plein les oreilles. Bonjour, bonjour, Clotilde Seil en votre compagnie. Vous nous écoutez peut-être via Canalem ou encore en balado ou encore à CKVL. C'est l'émission consacrée aux livres audio des livres plein les oreilles. La première fois qu'une cousine éloignée lui a dit « L'Indien, tu l'as en toi », ça l'a laissé un peu perplexe, mais surtout curieux, curieux d'en savoir plus. Depuis, si on ne peut dissocier l'homme du journaliste, on ne peut pas non plus dissocier l'homme de l'Indien qu'il a en lui. On se souvient de Koukoum, dont le livre audio est disponible d'ailleurs aussi sur le catalogue de Vues et Voix. Je vous parle de Michel Jean qui nous racontait l'histoire de cette arrière-grand-mère qui épousait dans tous les sens du terme la culture innu. Avec Atouk, elle et nous, nous faisons connaissance avec sa grand-mère, Jeannette, qui, elle, a épousé un blanc, mais que la culture indienne n'a vraiment jamais quitté. Michel Jean sera là pour évoquer ce livre qu'il a lu en compagnie de Natacha Canapé-Fontaine, qui ne pouvait pas, hélas, se libérer pour cet entretien. C'est dans quelques minutes. Également à l'émission, on va retrouver Gérald Cousineau, qui représente ici tous ceux pour qui les livres audio ne sont pas un luxe, mais une nécessité. Je veux parler bien sûr de la communauté des personnes mâles ou non-voyantes. Et enfin, nous saluons l'arrivée sur nos ondes, je veux parler des ondes de Canalem, de l'émission Images et mots à voix haute que Marie Lalande a concoctée pour vous et qui sera en ondes dès le 10 avril à 9h en direct ou encore en ligne également à canalem.vuesetvoix.com. Qui d'autre qu'Élise Appy pour nous amener sur un plateau, Michel Jean.
Arna Wama. Ino se haitara, nallini haitara. Taimat saina nuitini araviu. Sorlu takato te. Puyur tailigina kipimang arpit. Arna Wama.
m'appelle Jeannette, comme ta grand-mère, dit-elle. C'était ma tante. Mon père, Antonio, était son frère. On est fiers qu'un fils de Mastouillache travaille à la télévision à Chantel. Elle a une voix douce et fragile qui contraste avec sa silhouette solide. Merci, lui dis-je. Me voit-elle comme un inou, moi, son cousin? Elle se contente de sourire. Je prends le temps de la détailler. Plutôt grande, elle a un beau visage rond, des yeux moqueurs. Elle dégage une assurance tranquille et semble toujours sur le point de rire. Michel, je veux te dire une chose importante. Elle fait une pause, le temps de me fixer, puis continue. Michel, l'Indien, tu l'as en toi. Elle a prononcé ces mots dans un murmure, comme une confidence, comme on partage un secret. C'est beau ce que tu me dis, Jeannette, mais qu'est-ce que tu entends par là? Elle sourit. Souvent, quand je te vois à la télévision, les gens s'énervent autour de toi. Toi, tu restes toujours calme. Ça, c'est indien.
Atouk, c'est un livre qui est sorti en 2012, qui a été revu et légèrement corrigé. C'est un récit à deux voix. Elle, Jeannette, Hirondelle, la grand-mère, et lui, le petit-fils, Michel, avec du sang indien dans les veines et des yeux bleus venus d'Irlande. Et puis deux voix qui ont porté ce livre, Natacha Canapé-Fontaine et Michel Jean, l'auteur, le journaliste. Mais aussi, celui que je vais accueillir, c'est celui dont la mémoire personnelle résonne au cœur de la mémoire de beaucoup de monde, blanc comme autochtone d'ailleurs. Bonjour Michel Jean.
Bonjour.
Michel Jean, vous dites, on vient d'entendre un extrait où là, cette cousine qui s'appelle également Jeannette vous dit paf, de but en blanc autour du cercueil de l'autre Jeannette qui vous dit l'Indien, tu l'as en toi. Et vous dites à la fin de ce chapitre que ça vous rend fier et inquiet. Pourquoi?
Ben parce que ça pose la question qui est-ce que tu es vraiment? Et c'est la question que j'ai commencé à me poser à partir de ce moment-là. C'était ce que je pensais être un trait de caractère était très culturel. Alors, quelle était la part d'Autochtone en moi qui avait survécu? Et c'est là que ma réflexion, mon cheminement personnel a commencé.
Mm-hmm. Mais qu'est-ce qui vous inquiétait là-dedans, Michel?
Il y a une part d'inconnu. Il y a une part de non résolu. Alors, c'est un côté. Il y a aussi le fait qu'être autochtone à ce moment-là, c'était pas encore quelque chose dont on parlait beaucoup et tout. Alors, il y avait toutes ces questions qui étaient des questions en suspens, qui là, soudainement, se posaient, qui devenaient réelles. Alors, ça me sortait, dans le fond, d'un certain confort ou d'une. Mm-hmm. D'une zone de confort, disons, dans laquelle j'étais.
C'est fou comme tous ces questionnements-là naissent soudain, et c'est dommage, après un décès. C'est la réflexion que je me faisais.
Moi aussi, d'ailleurs. Et,
oui, hein?
J'ai eu beaucoup de regrets à ce propos, parce que, ma grand-mère, je me rends compte avec le temps que j'aurais dû insister encore davantage pour lui poser toutes les questions que je me pose. Encore aujourd'hui, il n'y avait personne d'autre de mieux qu'elle pour y répondre. Je l'ai pas fait parce qu'elle n'était pas encline à le faire, parce qu'elle était réservée. Et bon, tu sais, je n'insistais pas, mais j'aurais dû. Ouais.
Oui, parce qu'en plus, elle a toute une vie. Je voudrais qu'on remonte un petit peu d'abord au livre précédent, Koukoum, dont d'ailleurs j'avais parlé ici à cette émission. Alors, Koukoum, c'est la mère de votre grand-mère, c'est votre arrière-grand-mère dont il est question, c'est bien ça?
Almanda, oui.
Almanda. Et alors, Almanda, elle est d'origine irlandaise, elle a été adoptée par une famille de blancs et finalement, elle quitte la culture, entre guillemets, blanche pour épouser son Thomas. Et c'est pas seulement un autochtone qu'elle épouse, mais c'est toute la culture qui va avec et elle va devenir plus amérindienne que les Amérindiens. C'est bien cela. Et là, c'est le contraire qui se passe avec Jeannette, mm-hmm. n'est-ce pas? Avec Hirondelle.
Ouais.
J'aime bien d'ailleurs Hirondelle.
Donc la fille va faire le chemin inverse de la mère.
Oui.
En fait, ce qui est arrivé avec ma grand-mère, c'est que mon grand-père était autochtone et de fils illégitime, donc il avait un statut officiellement de blanc, même si, bon, son père était autochtone vraisemblablement, mais officiellement, il avait un statut de blanc. Donc, en mariant ma mère, ma mère, en vertu de la loi sur les Indiens, ma mère, ma grand-mère, perdait son statut autochtone, donc devait quitter la réserve. Et donc, à ce moment-là, ça a eu comme conséquence que toute la famille, on est des seuls, nous, au fond, qui n'ont pas grandi à Mascouillage.
Oui, je comprends.
Ma mère est née allemande, etc. Ouais. Et donc, c'est ce chemin-là que je raconte dans Atuk.
Alors, il y a un personnage important qui est le lac Saint-Jean, qu'on appelait Pekwakami, c'est bien ça, qui est d'ailleurs, c'est écrit en toutes lettres dans votre livre Atuk, indissociable de Jeannette.
Ouais, ben Jeannette est attachée au lac et attachée particulièrement au lac. Honnêtement, est-ce que c'est une portion que j'ai un peu... est-ce que ma grand-mère voyait toutes les choses dans le lac que moi, je lui fais voir dans le livre?
Ouais.
C'est difficile à dire, parce que c'est le genre de choses qu'on n'a pas abordées.
Okay.
Mais il y avait beaucoup d'amour chez elle, de la forêt, du bois, du territoire.
Oui.
Même quand elle était plus vieille, à sa retraite, après le décès de mon grand-père, elle y retournait, elle retournait tous les étés, puis elle passait un mois ou deux, à l'âge de 80 passé, là, dans le bois avec ses sœurs.
Oui.
Là, elle vivait avec très peu, en trappant, avec un peu de farine et tout.
Le bois, la forêt, d'ailleurs, c'est quelque chose qui ne vous est pas étranger. Vous vous sentez très proche également de la nature et des arbres. Et...
Moi, un chasseur ou un pêcheur, quoi, que quand j'étais jeune, je pêchais beaucoup.
Oui.
Mais il n'y a pas grand-chose que j'aime plus que me retrouver en forêt. Forêt, montagne, je fais du vélo de montagne, je fais de la course.
Michel,
forêt.
Vous avez de l'Indien en vous, c'est sûr.
Ben, clairement,
oui. Votre grand-mère, d'ailleurs, dans son récit, parce que, bon, là, comme je le disais, c'est vraiment un récit, c'est elle qui parle ou c'est vous qui parlez, puis il y a nous qui recevons. Mmh. Et dans son récit, elle nous fait découvrir beaucoup cette vie autochtone qui m'avait tant touchée, marquée lorsque j'ai lu Koukoum déjà, et d'autres livres, très honnêtement. Et il y a justement ces bois où elle est née, cette forêt où elle est née. Et on va écouter un extrait d'un chapitre qui concerne Jeannette, lu par Natacha Canapé-Fontaine, qui ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui.
Je suis née dans le bois, pas loin des passes dangereuses, le territoire de chasse des Siméons. Ma tante a aidé ma mère à me mettre au monde. Je suis donc née au milieu d'une forêt enneigée, mais à l'abri du froid, dans le campement familial, mon premier cocon. Quand je suis enfin sortie du ventre de ma mère épuisée, mon père m'a frappé les fesses comme il aurait pris un petit lièvre. Je le sais, car je l'ai vu plus tard répéter ce geste symbolique avec mes frères et sœurs. À cette époque, un homme avait la responsabilité d'accueillir ses enfants à la vie. Almanda m'avait poussée hors d'elle et Thomas, lui, m'attendait. Mes parents ne m'ont pas donné de nom tant que nous sommes restés dans le bois. Ils ont attendu la fin de la saison de trappe. Si j'avais perdu la vie à cette époque, rien n'aurait subsisté de moi, même pas le souvenir d'un prénom. Je n'aurais été qu'un esprit parmi d'autres errant dans la forêt immense.
C'est terrible, ça. Hein? Il ne serait rien resté de moi, même pas un prénom.
Mm-hmm.
Ouais,
ben,
oui,
parce que je voulais expliquer un peu comment aussi les gens faisait pour donner les noms. C'était pas comme aujourd'hui, il y avait tout un cérémonial. Donc, c'était vraiment un nom qui concordait avec la personne, qui lui ressemblait. Puis il y avait aussi cette volonté de clan aussi, où on consultait les gens dans la communauté. C'est une façon différente de voir la vie.
Complètement.
Celle des Autochtones. Donc, même le choix du nom se faisait d'une autre manière. Et c'est un peu ce que j'essaie d'expliquer aussi à travers le récit de Jeannette, c'est que à travers son récit de vie à elle, au fond, c'est la vie des Autochtones qu'on découvre.
Oui.
Et Jeannette a un point de vue très différent d'Almanda dans Koukoum. Parce que Almanda, elle découvre la forêt et le monde de la forêt, alors que Jeannette, elle, est née dans le bois.
Elle est née dedans,
son univers de naissance.
Oui.
Alors, les deux parlent du même monde, mais il y a quand même une différence dans la façon dont elle le voit.
Mm-hmm. Il y a une grande question au hasard aussi de ce livre que j'ai noté. Est-ce que je devrais être fière de mes racines ou en avoir honte? En tout cas, c'est une question que vous vous êtes posée à un moment donné. C'est terrible comme questionnement, ça.
Ben oui, parce qu'on est toujours quand même confronté à la façon dont on considère les Autochtones. Je racontais, par exemple, quand moi j'étais jeune, les modèles, on n'en avait pas de modèles politiques autochtones. On voyait les films de Western, puis les Autochtones, c'était les imbéciles qui tournaient en rond jusqu'à ce que les cow-boys aient fini les abattre un après l'autre. C'était les losers parce qu'ils perdaient, le territoire, puis c'est les Blancs qui étaient les conquérants, puis c'était les méchants, c'est les Blancs qui étaient les victimes des attaques toujours sournoises des Indiens.
Oui.
Quand on apprenait les cours à l'histoire, cours dans nos livres, on voyait à peu près pas les Autochtones, sauf comme sidekick, si on veut, avec les bons Autochtones qui étaient du côté des Français, les méchants Autochtones, les Mohawks qui étaient du côté
des Anglais. Oui, ce que vous expliquez très bien.
Moi, j'ai grandi dans le Québec encore où l'Église prenait beaucoup de place. Et Saint-Martyr canadien, là, ça avait quand même une importance
dans
la cosmologie qu'on avait et à l'école, dans nos cours de catéchisme. Les Autochtones étaient ceux qui tuaient, qu'on tuait en les faisant souffrir, les Saint-Martyr canadiens. Tout ça accumulé sur le plan d'une vie, sans compter les scènes de racisme dont j'ai été témoin, faisant en sorte que c'est pas être autochtone, c'était pas quelque chose dans la société qui était valorisé.
Encore maintenant, d'ailleurs, hein, malheureusement, l'actualité, vous êtes bien placé pour le savoir, nous le rappelle constamment. Hein.
Encore aujourd'hui, ça change. Mais encore aujourd'hui, je veux dire, les Autochtones sont encore à peu près invisibles dans l'espace public. Je veux dire, moi, je suis journaliste. Hein.
Oui.
Je suis le seul journaliste en nombre dans tout le Québec qui est autochtone.
Imaginez.
Il n'y en a aucun autre en nombre. Et dans la presse écrite, il y a Marie-Michèle Sioui, qui écrit dans Le Devoir, dont on peut voir le nom, qui est la seule, à ma connaissance, aussi. Bon, on a engagé quelques-uns, genre à Espace Autochtone des Jeunes, qui commencent à travailler, mais c'est un site web, on les voit plus. Puis à la TV, dans les séries, on ne les voit pas.
Non, c'est clair.
On ne voit pas les Autochtones nulle part encore aujourd'hui. Ça n'a pas changé.
Ah non, ça n'a pas changé. Et je me disais, dans votre cas, Michel Jean, vous êtes à la fois très blanc et très indien, et donc vous êtes un petit peu assis... honnêtement, je connais un petit peu ça en tant que Française, moi, parce que souvent, c'est pas qu'on me le reproche, mais il y a quand même toujours un peu la Française. Il y a toujours un petit peu... vous comprenez ce que je veux dire? Je sais que je n'ai pas la même origine, je n'ai pas été chassé, je n'ai pas eu à vivre... c'est très différent, on s'entend, mais...
Non, mais c'est que vous êtes différente.
C'est ça, exactement.
Identifié comme étant une personne différente.
Oui, et la preuve aussi, c'est que quand, par exemple, j'ai adoré cette scène, quand vous allez faire un reportage en Saskatchewan et que vous tombez... Sur un Indien, je ne sais pas comment vous l'appelez, je m'excuse de dire Indien, je sais que vous n'aimez pas beaucoup ça.
Autochtone.
Et qu'il vous observe, vous écrivez, il a observé mon micro et mes yeux clairs, quelle part de moi, un Nakota des prairies, qui n'avait sans doute jamais vu une forêt semblable à celle de Nitassinan, ou Nitassinan, vous prononcez, en tout cas,
Nitassinan,
le territoire des Innus pouvait-il considérer comme celle d'un frère? Je n'en voyais aucune dans le regard opaque qui me toisait. Donc, pour lui, vous n'êtes pas indien, et pour les Blancs, vous n'êtes pas que Blanc, quoi.
Ben oui, ben lui, il ne peut pas savoir. Puis
ben non, c'est sûr.
Ça, c'est aussi une chose qu'on va dire souvent aux Autochtones. Si on n'est pas typé, les gens vont comme dévaluer un peu votre identité. Ah, t'as pas l'air autochtone. Mais tu sais, c'est quoi avoir l'air autochtone? Est-ce que Danny Laferrière a l'air québécois à ce compte-là? Je veux dire, c'est quand même. Puis il y a quelque chose dans ça qui choque beaucoup d'Autochtones aussi. Parce que c'est comme de dire que c'est comme de nier. Alors que l'identité, en réalité, elle tient à beaucoup d'autres choses. Mais lui, cet Autochtone-là qui était là, il était en colère parce qu'il avait raison. Eux, ils ont été victimes, ils ont fait voler leur terre et ils ont récupéré après une longue période. Par un processus en cours, il voit arriver un journaliste qui prend pour un blanc, il ne connaît pas mon histoire. pas de la régressivité, mais je chantais mépris quand même. Son mépris. Mais moi, je me retrouvais dans une situation où j'étais de son côté,
Ben oui.
En même temps, j'étais l'autre.
C'est ça.
C'est comme dans un. une situation où tu as des sentiments partagés.
Je comprends. Je vous rejoins beaucoup dans ce sentiment-là. Le temps file très vite. Michel Jean, je rappelle à ceux qui nous écoutent qu'on discute autour de Atouk, Elle et Nous, qui existe maintenant en livre audio, que vous avez lu avec Natacha Canapé-Fontaine pour Vues et Voix. C'est maintenant à notre catalogue. Le livre s'achève sur la douleur, entre autres, de Jeannette, qui est à la veille de mourir. Sa seule consolation, c'est qu'elle va aller rejoindre cet homme qu'elle a tant aimé toute sa vie. Mais ses parents ne lui ont jamais pardonné. Ça, pour elle, c'est terriblement souffrant.
Son père, en fait.
Son père, oui.
Ouais, parce que Thomas, c'est important aussi, parce que là qu'on voit que les autochtones ne sont pas parfaits non plus. Là.
Non.
On a des torts aussi. Et Thomas n'est pas allé au mariage. Parce que pour lui, elle mariait un blanc. Puis il n'a pas accepté ça. Pourtant, lui, elle mariait une blanche. Mais Thomas n'a pas accepté. Il n'est pas allé au mariage de Jeannette. Puis ça a pris 7 ans avant que Jeannette... Je pense que 7 ans. Avant que Jeannette retourne chez elle dans sa communauté après son mariage. Puis Thomas, il n'a jamais accepté ça aussi. Puis ça a été une blessure pour ma grand-mère.
Profond.
Ma mère m'en avait parlé. Qu'elle a porté toute sa vie. Mais à la fin, puis j'avais un peu le sentiment avec Almanda la même chose, c'est que pour les deux, quand leur homme est mort, ne se sont pas remariés, n'ont jamais eu d'autres hommes. Almanda et Jeannette ont eu un amour dans leur vie. Et j'ai toujours l'impression que ça aide quand même à accepter les blessures de la vie.
Oui.
Parce que quand on aime quelqu'un, c'est pas quelque chose de concret, c'est pas quelque chose qu'on peut voir, c'est quelque chose qu'on ressent. Et tant que ça existe en soi, ça existe quelque part.
Hmm.
Donc, c'est jamais tout à fait mort tant qu'on est vivant. Alors, c'est quelque chose qui, je pense, a aidé la mère et la fille, chacune à leur moment, à affronter les difficultés qu'elles ont rencontrées dans la vie, puis à trouver une part de réconfort, et ça les aidait à développer leur résilience.
C'est très beau ce que vous venez de dire, Michel. Du coup, je ne rajouterai rien, sinon je vous remercie d'avoir accepté de m'accorder cette entrevue pour les auditeurs de cette émission de Livres plein les oreilles. Merci pour ce livre, merci de l'avoir lu à Vues et Voix. Et puis, bien, au plaisir. Merci beaucoup.
Merci à vous, là, et bonjour à tout le monde.
Merci, au revoir.
Quand papa décrochait sa casquette, enfilait ses gants de cuir en annonçant « Je vais chez Bérubé ». Moi aussi, je mettais ma casquette et joyeusement, je le suivais à l'étable. Il attelait un de ses chevaux à l'express, voiture de travail, et au petit trot, nous allions chez Bérubé le forgeron pour faire ferrer le cheval. Papa, assis en avant, jambes pendantes, moi, debout sur la pôle qui dépassait derrière la voiture, d'une main grippant l'échelle et de l'autre essayant de toucher le soleil. Nous passions ordinairement devant chez Fidore. La semaine dernière encore, cela me laissait indifférent. Mais voilà qu'aujourd'hui, ce n'était plus la même chose. Un siffle, pointu et court. Fidore me reconnaît tout de suite et vient me rejoindre au galop, bras en avant, comme si, de sa fenêtre, il avait guetté mon passage. Nous étions deux. Je connaissais sa maison qui était haute, branlante, comme fatiguée. Une maison d'ouvrier où, au troisième étage, les soirs de chaleur, l'on jouait de l'accordéon en tapant violemment du pied. « C'est ma maison, » me dit-il, à l'aise et heureux comme un riche qui aurait dit « C'est mon palais. »
Vous avez reconnu cette voix, c'est celle du comédien Théodore Pellerin. Et si vous avez reconnu ces mots-là, bien vous aurez reconnu ceux de Félix Leclerc, cet extrait de « Pieds nus dans l'aube », un livre audio produit par Radio-Canada. Ça m'a donné envie, simplement peut-être, de souligner l'arrivée du printemps. Un printemps qui fait parfois quelques soubresauts, mais qui est bel et bien là.
Les blés sont mûrs et la terre est mouillée. Les grands labours dorment sous la gelée. L'oiseau si beau hier s'est envolé. La porte est close sur le jardin fané. Comme un vieux râteau oublié. Sous la neige, je vais hiverner, photos d'enfants qui courent dans les champs seront mes seules joies pour passer le temps. Mes cabanes d'oiseaux sont vidées, le vent pleure dans ma cheminée, mais dans mon cœur je m'en vais composer l'hymne au printemps pour celle qui m'a quitté. Quand mon ami viendra par la rivière au mois de mai, après le dur hiver, je sortirai bras nus dans la lumière et lui dirai le salut de la terre. Vois, les fleurs ont recommencé dans l'étable qui rit les nouveau-nés. Viens voir la vieille barrière rouillée endimanchée de toile d'araignée. Les bourgeons sortent de la mort, papillons ont des manteaux d'or. Près du ruisseau sont alignés les fées, et les crapauds chantent la liberté. Et les crapauds chantent la liberté.
Le grand Félix, faut-il le présenter? Vous écoutez l'émission Des livres pleins les oreilles, animée pour vous par Clotilde Seille. En seconde partie d'émission, on va retrouver avec plaisir deux personnes que vous appréciez beaucoup à Canal M. J'ai nommé Gérald Cousineau et également Marie Lalande qui va nous présenter une toute nouvelle émission qui sera présentée sur nos ondes. Alors ne ratez pas ça, c'est dans quelques minutes. À tout de suite. Des livres pleins les oreilles, seconde partie. Il y a des livres dont je parle parfois, mais que je n'ai pas eu le temps de lire ou mieux encore d'écouter. Alors une chance mes amis, que j'ai des chroniqueurs fidèles pour les lire ou mieux encore pour les écouter à ma place. Gérald Cousineau fait partie de cela et nous nous en réjouissons cette semaine. Il a écouté pour vous L'Anomalie de Hervé Le Tellier, Goncourt 2020, et Nickel Boys de Colson Whitehead, prix Pulitzer 2020. Je vous dis déjà que ces deux livres audio sont disponibles soit en format accessible, soit en format commercial. C'est du reste pour cela que Gérald Cousineau nous en parle. Et puis, je vais avoir aussi le bonheur de m'entretenir avec la bouillonnante Marie Lalande, qui a toujours des idées plein la tête et une volonté à toute épreuve pour les faire vivre, ces idées-là. Elle nous arrive avec une nouvelle émission consacrée à la lecture à voix haute, images et mots à voix haute, dès le 10 avril à la radio de Canal M ou en ligne. Et elle va venir nous dire de quoi sera faite cette émission et avec quel partenaire elle l'a mise sur pied.
Cet oubli qui s'est étampé sous ma peau et m'a tatoué de ses propos, me trahit, désintègre mon égo, brûle toutes mes photos. Blanc et noir.
t'ai pris un visage dans le miroir, des vestiges de mon pouvoir. Sur mes mots, ooh, ooh, ooh. Je n'entends que leurs échos. Comme un coup de ciseau dans ma ligne de temps.
Oui, tout ça, cette belle chanson-là, pour nous rappeler peut-être le passage de Michel Jean à l'émission, en première partie de l'émission. Si vous l'avez raté, oui, vous savez que vous pouvez la réécouter quand bon vous semblera, en allant sur le site soit de Vues et Voix, soit du Canal M, ou alors si vous faites simplement balado, des livres plein les oreilles, vous allez également tomber dessus. La jeune chanteuse s'appelait Sala. Bonjour, monsieur Cousineau.
Bonjour, madame Clotilde.
Comment ça va? Tiens, j'ai pas eu le droit à madame Seille aujourd'hui.
C'était un film. Si nous étions dans un film de Jacques Demy, je pourrais chanter ma chronique.
Mon Dieu. Oui, je vois.
Non. J'ai pitié de vous.
Merci. Merci, Gérald. Merci. Et puis, merci pour les choix. Parce que, comme je le disais, vous ne l'avez pas entendu en préambule à cette deuxième partie, mais souvent, j'évoque des livres, mais que je n'ai pas forcément eu le temps de lire ou d'écouter. Alors, je suis ravie lorsque quelqu'un comme vous a pu écouter ces livres-là, qui, je le précise tout de suite, sont en version accessible, donc absolument gratuitement, via le SQLA ou via CAEB ou via d'autres sites en ligne pour les personnes mal ou non-voyantes, ou encore en format commercial. Bon, cela étant dit, parlons du Goncourt 2020, L'Anomalie.
Oui, L'Anomalie d'un auteur que je le connaissais très peu. Mm-hmm. Il a pourtant une vingtaine de livres à son actif. Bon, je voyais son nom de temps en temps dans mes listes, mais j'étais pas assez curieux pour aller l'écouter ou le lire. Eh bien là, évidemment, L'Anomalie, il est devenu célèbre en France, parce qu'il ne l'était pas du tout avant. Donc, c'est un succès de librairie, ça l'est toujours, je pense. L'Anomalie, donc, prix Goncourt 2020. Drôle de livre, hein? Aïe, 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 comment parler de ce livre-là?
Aïe, aïe, aïe. Je vous laisse faire parce que moi, j'ai eu du mal. Hein?
Alors, nous sommes en juin 2021, je dis bien juin 2021. Vous avez un avion d'Air France qui compte 243 passagers, équipage et voyageurs, qui traverse une zone de, d'assez forte turbulence. Il passe tout près de s'écraser dans la mer, mais il va se rendre de pleine misère à l'aéroport JFK de New York. Et là, qui l'attend? L'armée et le FBI. Ah bon? Mystère? Mais pourquoi? Eh bien, on apprend que 3 mois auparavant, donc en mars 2021, le même avion, tout point semblable de cet avion-là, avec le même nombre de passagers, le même équipage, eh ben, a traversé lui aussi une zone de turbulence et s'est rendu à l'aéroport de Paris-Misère, l'aéroport JFK. Alors, ça, c'est la prémisse de départ de L'Anomalie.
Bon, bis repetitam.
voilà. Et là, l'auteur nous présente les principaux personnages. Il y en a à peu près 11, il y en a plus que ça, il y a 243 passagers. Mais il y a une dizaine de personnages qui vont se détacher. Bon, vous avez Blake, c'est un surnom, c'est un père de famille respectable et néanmoins, tueur à gages quand même. Hein, c'est un métier qui n'est pas tout à fait comme les autres. Et il va nous présenter Victor Bizet, qui est un écrivain confidentiel, qui va se suicider, lui, en avril 2021, juste avant de faire paraître son dernier roman qui s'appelle comment? Je vous le donne en mille. L'Anomalie.
L'Anomalie, oui.
Et cet écrivain confidentiel devient un écrivain culte. Alors, il y a également, bien sûr, Lucie Beaugaert, qui est une monteuse au cinéma et qui vit une relation difficile avec André Vanier. On va le voir, lui, c'est le dernier des personnages principaux. C'est l'architecte parisien, très, très en vogue. Donc, et ce qui est curieux, Clotilde, c'est que chacun des personnages principaux est présenté dans un style différent. Le tueur à gages, là, vous avez un ton un peu roman d'espionnage, roman policier. Lucie Beaugaert, ah là, c'est un peu plus le roman psychologique ou le roman d'amour, voilà, etc. Donc, pourquoi? Ben, ce monsieur, moi, je le connaissais très peu, je le répète, eh ben, il faisait partie de où il était sensible à ce qu'on appelait l'Oulipo. Vous savez, ça me rappelle mes vieux cours de littérature, l'ouvroir de littérature potentielle fondé par François Le Lyonnais et Raymond Queneau, surtout qui a oublié Raymond Queneau et ses fameux exercices de style.
Bien sûr.
Eh bien, c'est un disciple de toute évidence de cette école-là.
Ah, okay.
Et on apprend qu'il a une formation de mathématicien et d'astrophysicien. Ben, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant parce que il y a même une réflexion sur les algorithmes dans ce roman. Il y a un peu de tout. Hein. Donc, c'est un livre parfois savant, parfois drôle, parfois un peu métaphysique. Il pose des questions. Et tous ces personnages qui se retrouvent en juin à l'aéroport, ben, ont donc des doubles. Est-ce qu'ils sont arrivés 3 mois plus tôt dans le même aéroport? Donc, ils rencontrent leur double. Ça, c'est comique. Alors, bien sûr, Blake rencontre son double, etc. Donc là, mon Dieu, on pourrait se demander où la question qui ressort, c'est qui suis-je? Ou comment je vais réagir quand je vais rencontrer une personne qui est tout à fait comme moi? Et là, ça m'a fait penser à notre ami Fernando Pessoa qui, dans un moment de désespoir, écrivait « J'envie le monde entier de n'être pas moi ». Bon, je voulais la citer absolument cette phrase-là, parce que je me dis, comment on réagirait, vous
mais
et
oui.
moi, que, si on se retrouvait devant notre double exactement pareil?
Ben,
alors, des questions.
Eh bien, écoutez, je suis vraiment contente parce que c'est la première fois que je trouve quelqu'un qui me l'explique, j'allais dire comme du monde. C'est-à-dire qu'avant, c'était un petit peu comme le baseball. On avait beau me l'expliquer et me dire que c'est simple, j'ai jamais rien compris. Mais là, d'ailleurs, un jour, il va falloir que je vous demande peut-être de m'expliquer le baseball, Gérald, parce que peut-être qu'avec vous, je vais comprendre quelque chose. Alors, mais par contre, je vois pas du tout pourquoi l'extrait qui est mis en ligne...
Oui.
Et l'extrait qu'on va entendre. Vous allez peut-être comprendre plus que moi, vous. Bon,
d'accord.
On écoute.
C'est fini. Le garçon mime un peu la tristesse, enfin, ce qu'il imagine être la tristesse, pour ne pas troubler sa mère, mais il ne ressent rien. La mère reste là, glacée, devant le petit cadavre. Blake s'impatiente, il la tire par la manche. « Maman, allez, ça sert à rien de rester là, il est mort là, on y va. Je vais être en retard au foot. » Tuer, c'est aussi des compétences. Blake découvre qu'il a tout ce qu'il faut le jour où son oncle Charles l'emmène chasser. 3 coups, 3 lièvres, une espèce de don. Il vise vite et juste. Il sait s'adapter aux pires carabines pourries, aux fusils les plus mal réglés. Les filles le traînent dans les fêtes foraines. « Eh, s'il te plaît, jouer la girafe, l'éléphant, la Game Boy. Ouais, vas-y encore !» Et Blake distribue des peluches, des consoles de jeu. Il devient la terreur des stands de tir avant de décider de faire dans la discrétion. Blake aime bien aussi ce que lui apprend l'oncle Charles. Égorger les chevreuils, dépecer les lapins. Qu'on se comprenne bien, il ne prend aucun plaisir à tuer, à achever l'animal blessé. Ce n'est pas un vicelard, non. Ce qui lui plaît, c'est le geste technique. La routine sans faille qui s'installe à force de répétition.
Alors là, quand on n'a pas lu le bouquin, là, on n'a aucune espèce d'idée de ce qui est en train de se passer.
Alors ça, c'est l'enfance de Blake, qui va devenir un tueur à gages.
Très jeune,
découvre le plaisir de tuer.
Voilà. D'accord.
Et quand sa mère écrase le chien sur la route, « Mais maman, c'est juste un...
Ben » oui.
enfin, il a un mot d'argot, là, oui. Mais c'est juste un chien, justement. Donc,
oui,
plus
c'est
tard,
ça.
Un
bon clébard.
Père de famille, oui. Il va devenir un tueur à gage. Il faut bien gagner sa vie, Clotilde.
Ben oui, à peu près, vous avez raison. Et Robin Renucci, qui est le lecteur, a dû, oui. Je l'espère, bien gagner la sienne. Quelle belle voix et quel grand comédien que ce Robin Renucci.
J'ai apprécié ce roman. Ce roman, moi, je dirais que c'est un exercice de style, une pirouette. Il y a un critique qui a parlé de pirouette littéraire, c'est vrai. Bon. C'est toujours de force, quand même.
Mais oui.
Mais moi, je dirais que ça vaut la peine. Ça vaut la peine parce que ça sort de l'ordinaire. Quand on passe au dernier Goncourt, là, oh, ben là, c'est tout à fait autre chose.
Oh, on en reparlera.
Ça, je pense que. Oui, ça vaut la peine.
Ça vaut la peine. Bon.
Ouais, oui.
Mon ami, on enchaîne avec complètement autre chose.
Aïe, aïe, aïe.
On a quoi? Je vous dirais qu'on a peut-être un gros 5 minutes pour en parler, y compris l'extrait. Donc, je vous en laisse 4 parce que c'est vous. Nickel Boys a été enregistré chez Audiolib. J'ai oublié de dire que par Renucci, l'anomalie, c'était chez Écoutez Lire, Gallimard.
Oui.
Alors, chez Audiolib, Colson Whitehead, quel bouquin, quelle cruauté.
Quel écrivain. Ah. Encore un écrivain que j'ai découvert avec Underground Railroad, son avant-dernier roman, prix Pulitzer. Or, il a gagné encore le prix Pulitzer avec Nickel Boys.
Ouais.
Mais ce gars-là a une dizaine de livres derrière à son actif.
Ouais, ouais.
Mais moi, je l'ai connu avec Underground, qui est devenu d'ailleurs, je pense, un film.
Oui.
Donc, Nickel Boys, ben là, nous sommes en Floride. En Floride, il y a un jeune homme qui s'appelle Elwood Curtis, qui est arrêté un jour alors qu'il est dans une voiture. Il ne sait pas, la voiture a été volée. Alors lui, il est à bord. Il est arrêté comme le conducteur de la voiture. Il est amené dans une école de correction, une école de réforme, toujours en Floride. Ce petit gars-là, Elwood Curtis, est un orphelin. Ses parents l'ont abandonné alors qu'il avait 6 ans. Il a été aidé par sa grand-mère à Tallahassee, sa grand-mère Harriet. Et là, donc, on le retrouve dans cette école de réforme. Il se lie d'amitié avec un autre jeune noir qui s'appelle Jack Turner. Mais c'est une école qui n'est pas comme les autres.
Oh.
Il y a des châtiments corporels incroyables. Quand on lit ça, ce cher Whitehead, bien sûr, c'est une fiction. D'un bout à l'autre. Mais attention, il s'est inspiré d'une école qui, elle,
a existé, absolument.
Et où on a trouvé des dizaines et des dizaines de corps, des ossements humains.
Oui, dans des charniers.
C'est ça, un charnier. Et là, on a su que ces jeunes noirs, pour la plupart, avaient été martyrisés littéralement. Ah, donc, Whitehead a pris ça comme sujet. En 2014, il a vu cette nouvelle passer sur Twitter, je pense. Il a écrit son roman, donc Nickel Boys. Il a inventé l'école, mais en s'inspirant, bien sûr, de faits réels. Et là, oh là là, c'est quasi insoutenable par moment.
Mm-hmm.
Ce jeune Elwood, qui est un idéaliste, qui a reçu en tout jeune un disque où il entend Martin Luther King. Lui, il croit à Martin Luther King. Il croit qu'un jour, il pourra aller à l'université. Et non, malheureusement. Et là, il rencontre donc ce Jack Turner, qui lui est beaucoup plus cynique face à la réalité. Et ces deux-là vont tenter de se rire dans cette école épouvantable, où, bien sûr, sont les Blancs, pas de surprise, qui infligent les châtiments corporels.
Oui, les sévices, oui, bien sûr.
Voilà, donc c'est absolument horrible, mais en même temps, c'est un livre que je qualifierais de nécessaire, parce que, comme disait un critique, Whitehead fait la preuve qu'on peut encore écrire sur ce qu'ont vécu les Noirs. On le sait, il l'a fait avec Underground, il a traité de l'esclavage en Géorgie et de la façon dont les Noirs s'enfuyaient vers le Nord. Et là, avec avec Nickel Boys, ben, l'Académie Nickel, qui veut dire en passant un dissent, là, comme si cette Académie ne valait pas le sou, ne valait pas grand-chose. Et c'est vrai qu'elle ne valait pas grand-chose, finalement, quand on pense aux résultats. Et là, il y a des scènes où il décrit de façon maniaque ce qu'on faisait aux jeunes, la chambre blanche, comme il l'appelle. Il faut s'accrocher.
Oui.
Autant le premier livre, celui de L'Hôtelier, peut paraître amusant, divertissant. Autant le deuxième, mais je dis qu'il faut en venir à bout quand même. Oui. Il faut aller jusqu'au bout parce que ça s'est passé.
Oui,
C'est une réalité, malheureusement. Et là aussi, ben, évidemment, Whitehead est un écrivain que... D'ailleurs, le magazine Time l'a décrit comme l'un des plus grands écrivains américains vivants et il est dans la 50aine seulement.
Oh, absolument.
Alors moi, j'ai dit, oui, si vous n'avez qu'un livre américain à lire ces temps-ci, allez découvrir Nickel Boys.
De M. Colson Whitehead, on en écoute un extrait.
Oui.
Nickel était fermé depuis 3 ans, ce qui expliquait l'état sauvage du terrain et l'habituel vandalisme adolescent. Même le plus innocent des décors, un réfectoire, un terrain de football, prenait un aspect sinistre, sans qu'il y ait besoin de recourir à des trucages photographiques. Les images étaient dérangeantes. Des ombres tremblantes s'insinuaient dans les coins et la moindre tache évoquait du sang séché. À croire que l'équipement vidéo faisait ressortir la nature sombre de chaque image, absorbant le nickel visible et recrachant le nickel invisible. Si cela se produisait avec les lieux les plus anodins, pouvez-vous imaginer le résultat lorsqu'ils étaient hantés? Les garçons de nickel revenaient moins cher qu'une danse à 10 cents, et on en avait pour son argent. C'est en tout cas ce que les gens disaient.
Oh, c'est la voix, cette fois-ci, de Stéphane Boucher qu'on entendait lire Nickel Boys. Ça, c'est la production commerciale chez Audiolib. Et je rappelle, hein, mon cher ami, que vous l'avez écouté en voix de synthèse ou avec une voix humaine?
Je crois que c'était une voix de synthèse.
Okay.
Mais ça n'a pas dérangé du tout.
Non.
Tellement le livre est fort, le livre fait mal.
Parfait.
À mon avis, c'est un livre nécessaire.
Bon, merci tellement, Gérald. On se retrouve le mois prochain avec d'autres livres à partager. Avec nos amis voyants ou malvoyants, vive le livre audio, quoi qu'il en soit. Hein?
Oui, tout à fait.
Allez, bonne fin de journée, Gérald. Salut.
Au revoir.
Images et mots.
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 Images et mots. À voix haute.
Oh, que c'est charmant et que ça augure bien. Bonjour Marie Lalande, comment vas-tu? On va pas faire semblant de se vous voyer, hein?
Ah non, on va faire pour vrai, on va se dire dessus. ça va très bien, merci.
Écoute, merci. Ben de rien, ça part bien, hein?
Ça part bien, hein?
Oh là 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 là, on a juste envie d'en savoir plus et c'est pour ça que je t'ai demandé de participer à cette émission parce que dès l'instant qu'il est question de lecture à voix haute, eh bien forcément dans l'émission des livres pleins les oreilles, ça sonne une cloche et je me suis dit les auditeurs aussi vont avoir envie ce que Marie, qui raconte des histoires à Canal M depuis maintenant plusieurs années, va avoir envie de nous dire au sein de cette émission-là. Raconte-nous tout.
Bon, alors d'abord revenons sur le thème musical parce
oui.
que je trouve ça amusant. Ce thème musical, c'est un concerto de Handel,
oui.
concerto pour harpe. Et c'était dans ma tête, cette musique tournait dans ma tête. C'était un souvenir de mon enfance.
Ah oui.
Oui, tout à fait. C'était le thème musical d'une émission de radio, de la radio de Radio-Canada, que j'écoutais quand j'étais petite. Et je ne me souviens plus du tout du titre, mais je me souviens du plaisir que j'avais à écouter ce thème musical-là. Et je me disais, ça peut pas être autre chose pour cette émission qui commence bientôt, une émission qui sera à propos de la littérature jeunesse. Je pense pas que ça existe, une émission de radio à propos de la littérature jeunesse. Et j'ai voulu donner cette place-là,
oui.
bien humblement, au monde de la littérature jeunesse, donc aux gens qui font cette littérature-là et à ceux qui la lisent, à ceux qui se la font raconter.
Oui.
Donc, ça s'appellera Images et mots. Images et mots parce que dans les livres pour les enfants, il y a des images, il y a des mots.
Mmh.
Et ça s'appellera, la seconde partie du titre, c'est « À voix haute
mmh. ».
Parce que à voix haute, c'est l'idée de lire des histoires à voix haute, c'est les histoires qu'on raconte aux enfants
mm-hmm.
Dès qu'ils sont tout petits. Donc, de l'importance de faire la lecture aux petits pour que la lecture devienne quelque chose qui les habite et avec laquelle ils vivront toute leur vie, c'est ce qu'on souhaite. Alors, voilà.
Et Marie, tu as, excuse-moi de t'interrompre, mais quand je t'entends parler, je sais que tu vas me parler d'entre autres de Marie,
oui.
l'autre Marie,
l'autre Marie. Oui.
Dont je vais avoir du mal à prononcer le nom, alors je vais te laisser faire.
Je vais le faire pour toi.
Voilà, mais qui est un petit peu ton alter ego dans, je veux dire, elle aussi, c'est quelqu'un pour qui la lecture pour les jeunes, enfin, elle en parle, elle agit, elle est très remuante là-dessus. Elle a dû adorer ça quand tu l'as approchée, Marie.
Ben oui, en fait, Marie, on parle de Marie Barguirdian.
Ah oui, c'est ça.
Marie Barguirdian qui est autrice, qui a travaillé dans le monde de l'édition et qui est derrière un manifeste qui a été produit en 2019, je ne veux pas me tromper, au dernier Salon du Livre où on avait le droit d'être en présentiel. Là, c'était en 2019, ça a été lancé. Ce manifeste qui s'appelle « On a tous besoin d'histoire ». Alors, Marie, elle a fait appel à des éditeurs, à des auteurs, notamment il y a Simon Boulris dans ce manifeste. Oui. Et donc, tous ces gens ont pris le temps de préciser en 14 points pourquoi c'est important de faire la lecture et de présenter des livres aux enfants. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle « On a tous besoin d'histoire ». Et donc, dans ce manifeste, il y avait différentes recommandations, notamment qu'il y ait une émission hebdomadaire consacrée à la littérature jeunesse. Alors, moi, j'ai fait appel à Marie Barguirvian et à Mathilde Routy, qui est sa collaboratrice, et qui seront toutes les deux chroniqueuses à l'émission Images et mots. Elles présenteront à chaque émission une chronique dans laquelle elles présenteront des petites capsules, on appelle ça des podcasts, mais ce sont des capsules audio qu'elles ont créées, et chaque fois c'est sur un livre différent. Ça peut être sur un auteur, ça peut être sur un thème, mais chaque fois elles discutent toutes les deux de ce livre, elles en lisent des extraits, et tout ce qu'on veut faire quand on a fini d'écouter ces petites chroniques, c'est de se précipiter à la bibliothèque ou à la librairie pour se procurer les livres dont elles font la promotion. Il y aura ça dans l'émission. Il y aura un segment qui s'appellera « Raconte-moi une histoire » parce que c'est le nom qu'elles ont donné à leur,
d'accord,
leur chronique.
D'accord. Alors, par exemple, dans la première émission, en dehors de Marie et de Nathalie, hein, c'est bien ça?
Mathilde.
Donc, en dehors de cela, tu ne m'as pas parlé qu'il y aurait une entrevue?
Oui. Alors, chaque semaine, il y aura des entrevues. Il y a deux volets d'entrevues. La première émission, ce sera avec une grand-maman et son petit-fils, qui est en deuxième année. Et à cause de la pandémie, il ne pouvait plus se voir. Alors, ils ont décidé que Loïc, il s'appelle Loïc, le petit garçon, ferait un appel Zoom à ses grands-parents régulièrement dans la semaine. Il rapportait des livres à la maison. L'an dernier, il était en première année et il apprenait à lire. Alors, il a fait et il fait encore la lecture à ses grands-parents toutes les semaines. Alors, je vais les recevoir tous les deux et ils vont nous raconter ça. Comment ils fonctionnent?
C'est génial.
Qu'est-ce qu'ils lisent? Et ce que je voudrais, dans ce segment d'émission-là, qui va s'appeler « Dis-moi ce que tu lis ».
Et non, donc, pas « Pendez, mamie ».
Non. Et ça ne sera pas toujours des mamies. Tantôt, il y aura un parent avec son enfant. Il y aura un parent tout seul. Il y aura des enseignants. Moi, je viens du monde de l'éducation.
Bien sûr.
Alors, j'ai gardé des liens avec des enseignants, des enseignantes, avec des élèves. Alors, ce que je veux, c'est ouvrir une conversation autour de ce que ces gens-là sont en train de lire, permettre aux enfants aussi de prendre la parole. Alors, il y aura cette partie-là. Tantôt, ce sera dis-moi ce que tu lis. Puis tantôt, il y aura des gens qui s'impliquent dans les coulisses du livre.
Wow,
des auteurs, des autrices, des illustrateurs tristes, des éditeurs tristes. Des bibliothécaires, des libraires jeunesse, tous des gens qui sont dans la chaîne du livre.
Bien sûr.
Et qui vont nous préciser leur rôle.
C'est génial.
Moi,
je suis contente, Marie. Écoute, là, je vois l'heure tourner. Et malheureusement, tu sais ce que c'est que la radio, ma pauvre Marie. Mais je suis contente parce que c'est un peu le complément aussi à l'émission des livres pleins les oreilles. Parce que évidemment, on parle un peu, abondamment, non. Mais la littérature jeunesse fait partie de mon émission. Mais je suis tellement heureuse, fière pour Canal M et pour toi. Je sais que tu travailles très, très fort et j'espère que les gens là qui t'entendent parler se rendent compte à quel point ton enthousiasme est communicatif et à quel point tu vas leur donner envie de lire des histoires à leurs gamins et tu vas donner aux gamins l'envie d'écouter les parents leur en raconter. Voilà.
Alors, ce sera tous les samedis matin, dès le 10 avril à 9h.
OK. Est-ce qu'on pourra le réentendre en ligne après?
On pourra le réentendre le samedi à 18h30, le lundi à 14h, et on pourra télécharger l'émission.
OK.
Aller chercher ça quand on veut.
Quand on veut. Et en balado. Bon, exactement. Oui. Tout comme pareil, des livres plein les oreilles. Merci voilà. tellement, Marie Lalande. Images et mots à voix haute. Je t'embrasse. J'embrasse mes invités, Gérald Cousineau, Marie Lalande à l'instant. Et au tout début de l'émission, Michel Jean, auteur de Atouk, elle et nous. Et j'embrasse Jean-Sébastien qui me fait signe qu'il ne me reste plus que 5 secondes pour vous souhaiter une bonne semaine et de bonnes lectures. Salut tout le monde!